Donc aujourd'hui, on va parler de Dune, parce que Dune, c'est un des plus grands romans de science-fiction, en tout cas celui qui s'est le plus vendu au monde. Donc Dune de Frank Herbert, que vous devez connaître parce qu'il a aussi été adapté en film par David Lynch, et qui a à moitié été adapté par Jodorowsky. Donc Dune a été publié en 65, il a été rédigé à partir des années 60. C'est un cycle de 6 ouvrages, donc Dune, le Messie de Dune, les Enfants de Dune, l'Empereur Dieu de Dune, les Hérétiques de Dune et la Maison des Mers, qui clôt le cycle de manière un peu de manière un petit peu abrupte, puisque Frank Herbert est mort en 1986 en n'ayant pas achevé son œuvre. Il a laissé plein de notes, et son fils a repris aussi ses notes et a rédigé des romans dans l'univers de Dune. Donc avec moi, j'ai Laurent Jeunefort, Anudar Bruzéis et Guillaume Herp. Donc Anudar Bruzéis et Guillaume Herp sont des modérateurs du forum de Dune Arrakis, qui est une communauté qui existe depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, et qui ne parle que de Dune à des gens qui arrivent. Et ils sont là depuis les débuts, je crois, en tout cas pour Guillaume, oui. Et Anudar tient un blog littéraire qui s'appelle La bibliothèque d'un inculte assumé.
C'est pas tout à fait le titre. Le titre, c'est La grande bibliothèque d'Anudar. Et en effet, c'est le sous-titre À quoi ressemble la bibliothèque d'un inculte assumé.
Et Laurent Jeunefort est un auteur de science-fiction qu'on a eu hier déjà à la table ronde à la bibliothèque de Lapardieu. Donc Laurent Jeunefort n'est pas là par hasard, il écrit de la science-fiction et il a rédigé une thèse sur les livres univers. Vous pouvez rentrer. Sur les livres univers, en se basant sur 5 œuvres, donc No de Stéphane Wool, Dune de Frank Herbert, La Compagnie des Glaces de Monsieur Arnaud, Heliconia de Brian Aldiss et Hyperion de Dan Simmons. Tu es aussi lauréat du Grand Prix Imaginaire pour Arago, c'est ça, en 95, et tu es très connu pour Omal, qui est une série qui est dans l'univers de la Pan-structure, j'ai noté ça.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux présenter ton œuvre très rapidement?
Alors, mon œuvre très rapidement, je suis auteur de science-fiction et de fantasy aussi, d'ailleurs. Mais la SF prend la principale part de ma production. J'ai écrit une quarantaine de romans, donc une trentaine de bouquins de SF qui sont pour la plupart, la quasi-totalité, c'est du space opéra et ce qu'on appelle du planète opéra, c'est-à-dire où un peu comme pour Dune, hein, où le véritable héros est la planète elle-même. Disons, elle survit à l'histoire initiale pour se perpétuer à travers d'autres histoires. Voilà, et puis Omal, c'est une sorte de sous-cycle au cycle de la Pan-structure, qui n'est pas vraiment un cycle, hein, c'est plutôt une sorte de matrice d'histoire. J'imagine que l'humanité a récupéré une sorte de réseau spatial abandonné par des extraterrestres dont on ne sait rien. Mais en tout cas, l'humanité a essaimé dans les étoiles grâce à ce réseau, en fait. Et sans du tout savoir à quoi il sert, enfin à quoi il servait à l'origine, et puis pourquoi on lui a laissé. Mais le fait est que ça a mis à sa disposition à peu près 20 à 30 000 mondes différents. Et chaque roman explore un ou plusieurs de ces mondes, en fait, à des périodes différentes de l'histoire de ce qui n'est pas un empire, qui est simplement une kyrielle de mondes. Et Omal, c'est un peu différent parce que ça se passe à l'intérieur de quelque chose, d'un artefact. C'est pas une vraie planète, c'est plutôt ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire une sorte de coquille autour d'une étoile qui tourne et qui est atmosphérisée à l'intérieur, sur sa face intérieure. Des milliers d'espèces intelligentes, dont l'humanité, ont été importées dedans, en fait, via justement les passages, via les réseaux laissés par cette espèce mythique qui s'appelle les Vanks. Je pourrais en parler davantage, mais on va plutôt rester. Mais Dune a été fondateur aussi. Je pense que sans Dune, j'aurais pas écrit ce que j'ai écrit.
Est-ce que tu peux parler justement de Dune, de sa réception, de l'œuvre littéraire que c'est, peut-être ?
À Dune, c'est une espèce d'énorme astre dans le firmament de la SF. Hein. C'est dommage d'ailleurs, moi qui suis un grand fan de Herbert, que Dune est occulté simplement par son succès planétaire. Hein. C'était un best-seller, un authentique best-seller, et un des quelques best-sellers de science-fiction qu'a compté la littérature mondiale. Et c'est un peu dommage que Dune ait occulté le reste de la production de Herbert, qui est absolument remarquable. Mais en tout cas, c'est clair que Dune, de par sa cohérence, et puis de par son... c'est un vrai best-seller aussi dans le sens où c'est pas un best-seller programmé, comme on en trouve maintenant, à grand coup de marketing. C'est un bouquin qui s'est réellement imposé par sa stature même. Alors le bouquin a été écrit au tout début des années 60, il a été prépublié dans Analogue, la revue Analogue.
Ton micro
Non.
Non,
mais c'est le mien en fait.
Ouais, non, mais je sais que le tien est tout toi. On va peut-être attendre encore 5 minutes avant de commencer.
Ouais, parce que là, ton quart d'heure lyonnais,
ouais.
Il est court. Hein.
Il est court, hein, mais.
Moi, tu sais ce que j'aime quand je fais une cour.
C'est vrai que.
Ça, mais là, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un micro pour le faire.
Ah, mais ça. Il y a une autre,
je pense que.
En même temps, ouais, sur.
Sur le truc post-apo, je crois.
Ça, les mises.
Ouais.
Non, c'est bien.
C'est pas exactement.
Alors, encore après
C'est sûr. Le réchauffement climatique et l'utilisation de l'énergie sur Terre. Pour bien.
Laurent Wade qui est cette table ronde avec Jean-Marc Lamy.
Avec Jean-Marc Lamy et Sébastien Mabé qui travaille.
De quoi?
Dans l'écologie.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est en même temps qu'on est trompé.
Oui, c'est ce que j'ai entendu. Oui, j'ai discuté avec lui tout à l'heure.
Je pense qu'on fait une captation vidéo, on mettra tout de toute façon pour les autres conférences. Pour les captations, non, mais pour les autres conférences, on fera captation pour avoir, pour avoir celle qu'on loupe.
Parfait.
Donc, il y aura du rattrapage, quoi.
Ouais. Bah oui, parce que là, il faut choisir.
C'est comme les festivals de musique.
Il y a un beau programme, il faut choisir. Il y a un très beau programme, il faut choisir.
De toute façon, moi, je vais te dire qu'à 11h30, on va peut-être bien être invité. Donc,
on ira
souffler un peu.
On ira écouter les gens.
Ouais, non, mais quand je suis invité, j'aime bien, comment dire, un peu. Comment il a passé plus vite, là, c'est pas
mal. On attend encore 5 minutes ?
Ouais.
On va les écouter encore 5 minutes dire des bêtises.
Ouais, voilà. Par contre, je pense que si tu fermes la porte, les gens vont pas oser rentrer.
Ah oui, j'ai fermé la porte.
Non, mais là, ça va pas, là.
Là, ils vont croire que c'est commencé, ils vont pas oser.
C'est vrai.
C'est quoi ce spécial ?
Terraformer la planète au gros bioformer l'humain.
Je te dis, je pense que je vais être trop.
Parce que les fonds, c'est un peu le thème dans Dune aussi, hein, la formation de l'humain versus la formation de la planète.
Non, mais l'humain, il n'est pas rebioformé.
Non,
il...
c'est vrai, on en a parlé.
On en a déjà parlé l'année dernière.
Même que Gérard Klein, il n'était pas d'accord. Oui, on peut vous refaire celui l'année dernière aussi.
Ah non, il manque Gérard Klein quand même.
Oh, bah ça peut être pas un grand manque.
Oh ! Alors ça, c'est pas gentil. Oui, mais ce que tu en penses, mais il ne faut pas le dire. Parfois, tu sais, il ne faut pas dire les choses que l'on pense.
Surtout que c'est enregistré, là.
C'est pas...
Vu qu'elle ne viendra plus chez nous, vu qu'il avait dit qu'on l'intéressait
on va,
pas.
Apparemment, à l'avis des gens de l'accueil, on va attendre encore 5 minutes.
Ah, c'est des vraies lyonnaises à l'accueil.
Ouais,
tu mets des lyonnaises.
On peut faire une intro, oui. Je vais
parisien,
je
suis pas parisien, je vous
entends. Donc, je vais parler.
Oui, je t'en prie, vas-y.
Donc bienvenue. Laisse la porte ouverte, on va juste présenter le un peu ce qu'on va faire. Ah, c'est bon ? Plus fort ?
Non.
Ah, il n'est pas allumé. C'est bon ?
Non,
toujours pas. Ah, plus ? Ok, très près. Bienvenue à cette troisième édition des Intergalactiques. Donc on est dans la première journée du salon. On a déjà eu deux journées de festival qui ont été très très chargées. Donc vous pouvez trouver à l'accueil des super programmes qui vous indiqueront tout ce qu'on fait, toutes les tables rondes et aussi toutes les dédicaces, parce qu'on a plein d'auteurs dédicaces. Donc on vous rappelle que si vous voulez venir demain, on a un changement d'heure, donc ça peut vous intéresser. Tu vois, j'ai pensé à le dire. Et cette année, on fête les 10 ans de la Volt, donc qui sont nos invités d'honneur sur ce salon. Donc aujourd'hui, on va parler de Dune, parce que Dune, c'est un des plus grands romans de science-fiction, en tout cas celui qui s'est le plus vendu au monde. Donc Dune de Frank Herbert, que vous devez connaître parce qu'il a aussi été adapté en film par David Lynch et qui a à moitié été adapté par Jodorowsky. Donc Dune a été publié en 65, il a été rédigé à partir des années 60. C'est un cycle de 6 ouvrages, donc Dune, le Messie de Dune, les Enfants de Dune, l'Empereur Dieu de Dune, les Hérétiques de Dune et la Maison des Mers, qui clôt le cycle de manière un petit peu abrupte, puisque Frank Herbert est mort en 1986 en n'ayant pas achevé son œuvre. Il a laissé plein de notes. Et son fils a repris aussi ses notes. Il a rédigé des romans dans l'univers de Dune. Donc avec moi, j'ai Laurent Jeunefort, Anudar Bruzéis et Guillaume Herp. Donc Anudar Bruzéis et Guillaume Herp sont des modérateurs du forum de Dune Arrakis, qui est une communauté qui existe depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, et qui ne parle que de Dune à des gens qui arrivent. Et ils sont là depuis les débuts, je crois, en tout cas pour Guillaume, oui. Et Anudar tient un blog littéraire qui s'appelle La bibliothèque d'un inculte assumé.
C'est pas tout à fait le titre. Le titre, c'est La grande bibliothèque des Nudaires. Et en effet, c'est le sous-titre À quoi ressemble la bibliothèque d'un inculte assumé.
Et Laurent Jeunefort est un auteur de science-fiction qu'on a eu hier déjà à la table ronde à la bibliothèque de la Pardieu. Donc Laurent Jeunefort n'est pas là par hasard, il écrit de la science-fiction et il a rédigé une thèse sur les livres univers. Vous pouvez rentrer. Sur les livres univers, en se basant sur 5 œuvres, donc No de Stéphane Wool, Dune de Frank Herbert, La Compagnie des Glaces de Monsieur Arnaud, Heliconia de Brian Aldiss et Hyperion de Dan Simmons. Tu es aussi lauréat du Grand Prix Imaginaire pour Arago, c'est ça, en 95, et tu es très connu pour Omal, qui est une série qui est dans l'univers de la Pan-structure, j'ai noté ça.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu peux présenter ton œuvre très rapidement?
Alors, mon œuvre très rapidement, je suis auteur de science-fiction et de fantasy aussi, d'ailleurs. Mais la SF prend la principale part de ma production. J'ai écrit une quarantaine de romans, donc une trentaine de bouquins de SF qui sont pour la plupart, la quasi-totalité, c'est du space opéra et ce qu'on appelle du planète opéra, c'est-à-dire où le, un peu comme pour Dune, hein, où le véritable héros est la planète elle-même. Disons, elle survit à l'histoire initiale pour se perpétuer à travers d'autres histoires. Voilà, et puis. Omal, c'est une sorte de sous-cycle au cycle de la Pan-structure, qui n'est pas vraiment un cycle, hein, c'est plutôt une sorte de matrice d'histoire. J'imagine que l'humanité a récupéré une sorte de réseau spatial abandonné par des extraterrestres dont on ne sait rien, mais en tout cas, l'humanité a essaimé dans les étoiles grâce à ce réseau, en fait. Et sans du tout savoir à quoi il servait à l'origine, et puis pourquoi on lui a laissé. Mais le fait est que ça a mis à sa disposition à peu près 20 à 30 000 mondes différents. Et chaque roman explore un ou plusieurs de ces mondes, en fait, à des périodes différentes de l'histoire de ce qui n'est pas un empire, qui est simplement une kyrielle de mondes. Et Roman, c'est un peu différent parce que ça se passe donc à l'intérieur de quelque chose d'un artefact. C'est pas une vraie planète, c'est plutôt plutôt ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire une sorte de coquille autour d'une étoile qui tourne et qui est atmosphérisée à l'intérieur, sur sa face intérieure. Et des milliers d'espèces intelligentes, dont l'humanité, ont été importées dedans, en fait, via justement les passages, via les réseaux laissés par cette espèce mythique qui s'appelle les Vanks. Je pourrais en parler davantage, mais on va plutôt rester. Mais Dune a été fondateur aussi. Je pense que sans Dune, j'aurais pas écrit ce que j'ai écrit.
Est-ce que tu peux parler justement de Dune, de sa réception, de l'œuvre littéraire que c'est, peut-être ?
Dune, c'est une espèce d'énorme astre dans le firmament de la SF. Hein, c'est dommage d'ailleurs, moi qui suis un grand fan de Herbert, que Dune est occultée simplement par son succès planétaire. Hein, c'était un best-seller, un authentique best-seller, et un des quelques best-sellers de science-fiction qu'a compté la littérature mondiale. Et c'est un peu dommage que Dune ait occulté le reste de la production de Herbert, qui est absolument remarquable. Mais en tout cas, c'est clair que Dune a, de par sa cohérence, et puis de par son... c'est un vrai best-seller aussi dans le sens où c'est pas un best-seller programmé comme on en trouve maintenant à grands coups de marketing. C'est un bouquin qui s'est réellement imposé par sa stature même. Alors le bouquin a été écrit au tout début des années 60, il a été prépublié dans Analogue, la revue Analogue. D'ailleurs, autant le film de David Lynch, qui est en fait un film de studio, de David Lynch, c'est un peu exagéré de dire ça, autant le film, j'ai pas une grande estime pour le film en tant que tel, autant il y a des images qui correspondent réellement à des illustrations qu'on trouvait dans Analogue ou sur la couverture d'Analogue. Donc ça reste au moins graphiquement, il y a au moins quelques éléments qui ont subsisté. Donc on peut se faire un peu une idée de ce qu'avait imaginé l'illustrateur original des couvertures. C'est un bouquin qui s'est vraiment imposé assez rapidement, d'abord parce qu'il était révolutionnaire pour l'époque. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est extraordinaire, mais parce que c'était une époque extraordinaire aussi. C'était un roman qui ne cadrait pas du tout avec ce qu'on faisait à l'époque. C'est une science-fiction qui était réellement nouvelle.
Ne serait-ce que sur le format aussi.
Voilà.
Le format est très très long pour l'époque. On a quand même un gros pavé, ce qui à l'époque ne se faisait pas du tout, ou très peu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges entre Frank Herbert et son éditeur, justement sur cette longueur, savoir s'il fallait le découper ou pas sur le premier volet, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment un ovni, mais une sorte de...
C'est un roman qui a posé problème, il a été refusé.
Par les
éditeurs, pour les raisons de sa complexité, quoi, tout simplement. Mais une fois qu'il a été... Il a été lancé, le public de l'ASF et après un public plus large ne s'y est pas trompé. En général, le public de l'ASF averti ne se trompe pas sur les œuvres. Et ça a été le cas pour Dune. Il y a clairement un avant et un après Dune. Même si Dune s'inscrit quand même dans un contexte, je veux dire, c'est aussi sans Stanley Weinbaum avec l'Odyssée martienne, il n'y aurait pas eu Dune non plus. La représentation de l'écologie, de faire comme ça des systèmes mondes, c'est quelque chose qui a mûri lentement dans la SF. La SF, c'est un genre qui a, à l'époque où écrit Herbert, le mot science-fiction n'existe que depuis une trentaine d'années, ou 35 ans. Le genre lui-même existe depuis 60 ans, c'est quelque chose qui est très jeune. L'écologie n'est pas du tout rentrée dans les mœurs. Les mots comme écosystème, je ne sais même pas s'ils existent à l'époque. Herbert, il est à la pointe. Il était extrêmement moderne. Ce qu'on trouvait à l'époque, c'était des jungles vénusiennes, des romans d'action, en fait. dès qu'on quittait la Terre, ça devenait des romans d'action, c'était des space opéras. Dans Dune, tout se passe dans des palais, dans des salles, dans des chambres. On n'est pas dans une représentation typique de ce que faisait la SF à l'époque. C'est pas une SF très visuelle, et c'est ça qui est remarquable d'ailleurs, c'est que les quelques scènes visuelles ont marqué l'intégralité du genre, quand on voit les vers de sable, alors qu'en fait ça représente très peu en réalité, en tant que scène elle-même, ça représente peu dans les romans, mais c'est suffisamment frappant pour avoir marqué des générations d'auteurs, enfin de lecteurs et d'auteurs. Donc le bouquin, oui, s'est imposé, hein, il s'est vendu, c'est vous les spécialistes, je ne sais pas combien de millions dans le monde. Moi, ce que je trouve sur Tourmaga, c'est pour des bouquins qui sont pas évidents. C'est des bouquins qu'il faut aller chercher, il y a des réfractaires, d'ailleurs au roman, enfin à ce type de SF.
C'est vrai que c'est un cycle aussi qui s'étend sur 20 ans, puisque le premier tome, donc écrit en début des années 60, le dernier, la Maison des Mères, c'est 1984.
C'est pas plus bien. Oui, c'est
84 et 86, les publications.
Ouais, voilà. Donc vraiment 20 ans d'écriture, donc on voit vraiment pareil qu'il y a une progression dans la pensée, dans le style de Frank Herbert, avec ce pivot qu'est l'Empereur du Dieu Dune. Pareil, ce cycle s'oriente vraiment sur ces six tomes. Le quatrième occupe une place vraiment centrale de pivot. On voit un avant et un après, je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, où on voit vraiment la pensée de Herbert entre le monde tel qu'il est et tel qu'il le voit, et le monde tel qu'il aimerait qu'il soit. Ou en tout cas, la façon dont il développe sa pensée.
Du coup, est-ce que vous pouvez parler de la planète, parce qu'on va parler d'écologie. Est-ce que vous pouvez parler de l'écosystème de Dune et de comment il évolue dans la série? Je pense que c'est ton job.
Oui, en tant que biologiste, en effet, je crois que je suis là pour ça. Je pense que je suis là pour ça. Bon, tout à l'heure, Laurent Genefort, je vais repartir là-dessus, a lâché le mot d'écosystème. Je pense qu'il convient en effet de dire que ce qu'il y a de tout neuf dans le Dune de Frank Herbert, c'est qu'il y a un véritable écosystème qui est pensé. Par rapport aux jungles vénusiennes, aux déserts de Mars tels qu'ils étaient imaginés dans la science-fiction des années 30 et 40, les déserts d'Arrakis ne doivent pas vous tromper, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quelque chose de tout nouveau parce que c'est derrière ça que vous avez un véritable écosystème. Et qu'est-ce que c'est un écosystème? Pour un biologiste, un écosystème, c'est ce qu'on appelle l'ensemble d'un biotope et d'une biocénose. Un biotope, c'est un milieu de vie. Une biocénose, c'est tous les êtres vivants qui partagent ce milieu de vie. Donc à partir de là, ce qu'il y a d'original dans Dune, c'est que l'auteur a forcé l'imagination à la fois d'une biocénose, c'est-à-dire de forme de vie extraterrestre, mais aussi de leur milieu de vie. Et il s'est ingénié à construire un écosystème avec une adaptation parfaite entre le milieu de vie et les êtres vivants qui s'y trouvent, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans le monde réel. Alors à partir de là, cette biocénose dunienne, de quoi s'agit-il? Alors moi j'ai envie de distinguer d'une part tout ce que j'appelle la biocénose importée, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'être humain sur Dune. C'est pas une biocénose indigène. Il y a bien entendu la biocénose indigène qui est constituée par les truites, des sables et puis les grands vers qu'on découvre au fur et à mesure dans l'œuvre. Et puis il y a bien entendu le biotope, cette fascinante planète des sables, sur laquelle, si vous avez déjà au minimum vu les films de le film de Lynch par exemple, ou bien peut-être jouer aux jeux vidéo qui sont adaptés de Dune, vous avez remarqué à quel point c'est agréable de s'y perdre, d'une façon ou d'une autre, quand je dis agréable, hein, bien entendu. Alors moi, j'ai quand même envie d'insister un peu, c'est mon regard biologiste qui veut ça, sur cette biocénose extraterrestre, sur ces trucs des sables et ces grands vers. Bon, ce sont des êtres vivants qui, en fait, appartiennent à la même espèce. Donc, en réalité, la truite des sables, c'est le stade larvaire du grand vers. Donc ça, c'est une chose qui existe sur Terre, hein, bien sûr, des formes de vie qui possèdent, à différents stades de développement, des formes tout à fait différentes. Par exemple, si vous songez à des êtres vivants tels que les méduses, au stade larvaire, les méduses, ce sont des animaux invertébrés qui vivent dans le plancton, ce sont des animaux minuscules, pardon, qui vivent dans le plancton, et puis, à l'âge adulte, ça prend la forme de la méduse qui va vous faire du mal si vous posez la main dessus, par exemple. Le grand ver des sables, c'est la même chose. Son stade vert, c'est le stade adulte de l'animal, le stade qui est le plus dangereux. Et puis la truite des sables, elle, c'est une forme de vie amibéenne qui est découverte pas tout de suite dans l'œuvre, puisqu'elle n'apparaît d'une façon définitive que dans le troisième tome, Les Enfants de Dune. Et il se trouve que ces deux formes de vie ont un lien assez complexe avec leur milieu de vie, puisque eh bien, le sable, le milieu d'Arrakis, est le produit de la digestion du grand ver des sables. Le grand ver des sables produit le dioxygène nécessaire à la respiration. Donc l'atmosphère d'Arrakis est respirable grâce au grand ver. Et puis les truites des sables elles-mêmes, qui peuvent sembler négligeables à cause de leur apparence un peu grotesque, en réalité, leurs déjections sont à la base de la formation de la si précieuse épice dont il est question entendu. Donc, vous voyez à travers ces quelques remarques qu'on peut faire sur cette biocénose, sur ces animaux qui vivent sur Dune, on se rend compte que Frank Herbert a fait bien plus qu'imaginer un simple décor. Il a imaginé toute une écologie, tout un écosystème, tout un système dynamique. Et ça, pour un biologiste, c'est fascinant, bien sûr. Remarquez aussi que, mis à part les truites des sables et les grands vers, on ne voit aucune autre forme de vie indigène à Dune. Toutes les autres formes de vie qui apparaissent sur la planète des sables sont des êtres vivants qui ont été amenés par l'être humain. L'être humain, bien sûr, les chauves-souris, la souris des sables, qu'on appelle la petite mouette, et puis d'autres animaux qui sont mentionnés au détour, par exemple l'aine du désert qu'on appelle le culon. Tout ça, c'est des animaux qui ont été apportés par l'être humain. Donc les seuls êtres vivants indigènes à Arrakis qui se suffisent à eux-mêmes, en fait, ça sera le ver des sables et la truite des sables. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique dans la science-fiction, puisqu'on a un écosystème avec une rareté, une faiblesse des formes de vie, ce qui répond quelque part à la rareté de l'eau sur Arrakis, mais aussi à la rareté de l'épice dans l'univers. Et c'est en ce sens que Dune est quelque chose de tout à fait nouveau, à mon avis.
Est-ce que...
Moi, je vais rebondir sur cette notion de rareté, puisqu'en fait, il faut bien se rendre compte aussi qu'on est dans Dune, et Frank Herbert, quand il écrit, se situe dans une vision, en fait, de rareté, aussi bien rareté environnementale, écologique, qu'une rareté économique. On voit très bien dans Dune que la base de cette pierre dépend vraiment uniquement d'une planète, donc d'une ressource limitée. Et en ce sens, Herbert, dans les années 60, se situe vraiment dans le fil conducteur de théoriciens économiques sur cette notion de rareté, et comme Oetling, par exemple, qui est un économiste du début du XXe siècle, qui met en évidence cette notion de rareté des ressources. Et il développe dans les années 20 une théorie économique sur la mise en place d'une rente de monopole, notamment avec les pays producteurs de pétrole. Et là encore, on peut faire un parallèle, et ce qui est souvent fait entre l'épice et le pétrole, où la possession de cette ressource et la possibilité de destruction, et on voit très bien Paul à la fin du livre, du premier tome, dire qu'il peut détruire une chose, la contrôle complètement, on voit très bien dans cette scène de rareté que les personnages ont le pouvoir sur cet environnement, un contrôle. Alors Herbert ne dit pas spécifiquement qu'il faut préserver la planète, il ne faut pas forcément s'attacher à sauvegarder l'environnement à tout prix. Il n'est pas dans cette vision écologique-là. Il n'est pas à la recherche d'un paradis perdu. Il n'est pas à la recherche, il n'est pas dans la contemplation de l'environnement. On le voit très bien, donc notamment Arrakis, qui va être terraformé au départ par les Fremen, puis par les Tau 2, et par Paul, puis les Tau 2. Donc il y a cette terraformation d'Arrakis, donc la transformation du milieu. Mais on s'aperçoit aussi sur la fin du film, sur les derniers tomes, qu'il n'hésitera pas à uniformiser la planète du chapitre, donc la planète du Bene Gesserit, puisqu'à la fin, cette planète à la base, un climat tempéré, extrêmement agréable, etc., va être transformée petit à petit en désert pour pouvoir intégrer le ver des sables. Donc on voit bien qu'il y a, chez Frank Herbert, cette notion aussi de l'environnement ou l'écologie en tant que telle, où l'écologie en tant qu'environnement n'est pas un tabou sur lequel on ne doit pas toucher. C'est vraiment la notion de transformation et adapter le milieu aux besoins de l'être humain.
Ça, c'est un deuxième point aussi qu'on a dans cette écologie, c'est que l'humain est au cœur de l'écologie. Comme le disait Anuda, on le voit très bien sur Arrakis, on n'a que deux formes de vie indigène, qui sont le ver des sables, la truie des sables et le grand ver. Mais on voit aussi également que la protection de la faune n'est pas forcément le leitmotiv de Frank Herbert. Quand on pense au canisiège, quand on pense aux transformations et aux modifications biologiques qui peuvent apparaître sur des personnages comme des futards dans d'autres parties du cycle, on voit vraiment que la protection de la faune, à la limite, Frank Herbert, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse vraiment Frank Herbert, et ça on le voit très bien dans le premier tome où il donne sa définition de l'écologie, on voit très bien que c'est l'humain qui est au cœur de l'environnement, de l'écologie, pardon, au cœur de Dune, et c'est l'interpénétration, l'intégration entre l'humain et son environnement. Si on prend la définition que Herbert donne de l'écologie, donc là je me réfère au tome 1, donc à la fin du tome 1, vous avez une série d'appendices pour compléter et vraiment donner une vision complète du monde qu'est Dune. Donc il a cette phrase, donc au-delà d'un point critique dans un espace fini, la liberté décroît comme s'accroît le nombre. Cela est aussi vrai des humains dans l'espace fini d'un écosystème, donc c'est vraiment là, il emploie vraiment cette notion d'écosystème, je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire. Donc c'était aussi vrai dans l'espace fini d'un écosystème planétaire pour les humains que des molécules d'un gaz dans un flacon scellé. La question qui se pose pour les humains n'est pas de savoir combien d'entre eux survivront dans ce système, mais quel sera le genre d'existence de ceux qui survivront. Donc on voit tout de suite que le point de Frank Herbert, c'est l'adaptation de l'homme à son environnement. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, la transformation de Dune, d'Arrakis, vers une planète Brakis, qui va devenir, on va dire, plus conforme aux attentes des êtres humains, puis qui va redevenir un désert. On va avoir cette transformation de la planète du chapitre pour les besoins des sœurs d'une planète tempérée, agréable, vivable pour l'être humain en un désert. Donc on a vraiment ces transformations d'écosystème pour satisfaire aux besoins de l'être humain. Donc quand on dit l'écologie doit permettre d'étudier le genre d'existence des survivants et donc la capacité d'adaptation de l'homme, on se rend compte aussi que un peu plus loin, toujours dans ce passage, il estime que l'écologie et la plus haute fonction de l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Et ça, c'est un leitmotiv aussi chez Herbert, toujours prendre en compte les conséquences. Je vais faire une action, quelle va en être la conséquence sur mon environnement, sur moi-même, sur les autres. Et on peut étudier aussi ce principe-là avec les Fremen. L'échec des Fremen à s'être adapté à la transformation de leur milieu. Entre le début du cycle, où les Fremen essayent de transformer par petites touches, en implantant dans le désert, par-ci, par-là, quelques petites des plantes, en essayant de capter l'eau pour pouvoir la réutiliser ensuite, etc. Et le moment où Dune devient une vraie planète habitable, tempérée et agréable, les Fremen ont quasiment disparu. La preuve, c'est qu'on va les appeler, dans la fin du cycle, les Fremen de musée. Ils ont disparu, ils n'ont pas su s'adapter à leur environnement. Pourtant, c'est eux qui sont à l'initiative de cette modification d'Arrakis. Et pourtant, non. À la fin, ce changement va les dépasser, donc être incapables de s'adapter à leur nouveau milieu, et de ce fait, ils vont disparaître. Et c'est quelque chose de très intéressant, parce que dans plusieurs interviews, notamment une qu'il a donnée en 1981, dans un magazine qui s'appelle Mother Earth News, le journaliste s'interrogeait en disant « Mais comment ça se fait que ces habitants du désert, qui ont un but louable d'améliorer, de terraformer leur planète, ce sont des pionniers, etc. Comment se fait-il qu'ils échouent? Pourquoi les faire échouer? Quelle est votre envie? Quelle était votre démonstration? Pourquoi les faire échouer ?» Et Herbert dit, l'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement. On a de l'économie écologique, on a de la sociologie écologique, on a de la religiosité écologique, etc. C'est vraiment une intégration, un écosystème complet, une intégration entre différents points de vue, entre différents aspects. Et on voit bien, au terme de cette définition, qu'Herbert montre que l'écologie, c'est multiple. C'est pas juste la protection de l'environnement. C'est vraiment l'adaptation de la vie sur, sur une planète et même ailleurs.
Oui, et du coup, je voulais que tu parlais des Fremen, et du coup, je me posais une question. Tu parles de l'échec des Fremen, et pourquoi pas parler d'absolu? Parce que les Fremen vivent très bien dans ce milieu absolument hostile. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre dans un univers absolument vivable? Et pourquoi choisir, pourquoi pas de demi-mesure, pourquoi être obligé de fonctionner par absolu chez Herbert? Peut-être que Laurent, tu peux parler de ça.
Je ne sais pas si c'est par rapport à un absolu, plutôt. Moi je pense que c'est. Enfin, on est plutôt, comme tu disais, dans une idée d'évolution. Quelque chose qui n'est pas capable d'évoluer disparaît, et finalement les Fremen sont traités comme n'importe quelle espèce vivante, c'est-à-dire que s'ils ne s'adaptent pas, ils meurent, enfin ils disparaissent, en tout cas ils laissent la place à des peuples plus adaptés, dont la culture est plus adaptée aux... Voilà, puisque toute la culture Fremen, elle est fondée sur l'autarcie, sur la pénurie, et donc on supprime ça, on supprime les fondements même de leur culture. Et donc, s'ils ne se réforment pas à ce niveau-là, ils disparaissent. Et Herbert, il a traité. J'ai l'impression que le traitement de Herbert, de tous les aspects de son œuvre, est écologique. C'est-à-dire qu'il y a, quand les personnages. On a beaucoup de délibération intérieure dans l'œuvre. Quand on lit Dune, il y a énormément de délibération intérieure, de dialogue et de dialogue intérieur entre différentes instances. Intérieures, qui sont des instances morales, psychologiques, d'intérêt, etc. etc. Et finalement, ce sont les interactions, c'est les interactions entre ces instances qui comptent dans la psychologie de Herbert, de la même manière que dans un écosystème, ce qui importe de définir, ce sont les fonctions et les interactions entre les éléments du biotope, en fait, enfin du milieu. Il suffit pas de voir qu'un oiseau a telle forme et se nourrit de telle graine. Il faut voir aussi quels sont les rapports avec les autres espèces, en quoi les rapports, dans qu'on peut le classer dans les rapports pro-prédateurs ou symbiotiques ou commensalisme, etc. Et ces personnages sont traités un peu de la même manière. Pour moi, c'est vraiment Herbert, il a fait de son œuvre une œuvre réellement qui se définit par l'écologie à tous les niveaux de traitement des éléments du récit. Enfin, je l'ai perçu comme ça.
Non, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, pour Herbert, l'absolu n'existe pas, est un mal à combattre, que ce soit en écologie, en politique, quoi. Tout au long du cycle, quel que soit le thème, quelle que soit la thématique, pour Herbert, il n'y a aucun absolu. L'absolu, c'est quoi? Pour lui, c'est une dérive et ça, c'est un risque pour l'humanité et c'est ce qu'on peut voir tout au long du cycle. Attendre une vérité absolue, comme peuvent le faire les Fremen de leur Messie, ne pas s'adapter au fur et à mesure, c'est la voie vers l'extinction, vers la stagnation. Attendre une décision absolue pour Franck Herbert, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir agir au plus près de son environnement, au plus près de soi-même. Pour Herbert, et c'est aussi tout au long du cycle, du début jusqu'à la fin, l'évolution de l'Imperium, où au départ on est dans un système très très centralisé, où on attend beaucoup de décisions absolues, que ce soit les Fremen avec leur Messie, ça va aller jusqu'à son paroxysme avec l'Empereur Dieu, et dans l'Empereur Dieu aussi on peut parler d'économie de rareté, puisque l'Étau 2 va enfermer, entre guillemets, l'humanité dans un système complètement hermétique, interdisant encore, limitant très fortement le voyage spatial, etc. Donc l'Étau 2 se définit sur lui-même comme un prédateur, encore une référence à l'écologie, à l'évolution, pour que l'humanité puisse se libérer. Et se libérer comment? C'est en allant puiser en elle-même son potentiel, donc c'est ce qui va amener à la grande famille et la grande dispersion. Et à la fin du cycle, on voit que l'univers a complètement changé. On est passé d'un univers monolithique avec un impérium aux décisions absolues qui doivent conduire les humains à l'extinction, puisque les humains deviennent complètement déconnectés à la réalité, à une sorte d'univers fragmenté. Il y a une grosse défragmentation à la fin du cycle, avec des, Et c'est cette évolution de la société qu'imagine Frank Herbert. C'est les hommes, l'humanité doit être autosuffisante, c'est-à-dire s'éloigner d'un pouvoir absolu, puisque pour Herbert, le pouvoir absolu attire les esprits corruptibles. Il y a même cette phrase où il dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc vraiment, c'est cette notion d'absolu dans Dune, Herbert la combat tout le temps. Dès que quelqu'un est en recherche d'absolu, à la fin, ça va mal se terminer pour lui. Que ce soit donc les Fremen, que ce soit la leçon de l'étau 2, c'est ne vous attendez pas à avoir un guide absolu, sinon c'est la mort de la liberté, et au final c'est votre extinction.
On va peut-être parler de l'épice aussi, qui est une des composantes de l'économie de l'univers et de son écologie, du coup, puisqu'elle change toute la donne. Peut-être.
Je voulais simplement rebondir. Moi, ce qui m'avait frappé, et je me demandais s'il n'y avait pas une sorte, si le succès de Dune, le succès mondial de Dune, n'était pas, ne reposait pas en partie sur un malentendu. Et le fait d'avoir, pour Herbert, d'avoir développé un empire de 25 millions de planètes, ou de je ne sais pas combien de millions de planètes, d'avoir comme ça un récit épique, alors qu'en réalité, et avoir représenté un messie, alors qu'en réalité, il avait réellement comme dessein de démonter les mécanismes de la religion, de démonter, c'est un esprit rationnel et matérialiste qui s'attaque qui veut démonter de façon presque scientifique comment on fabrique Paul, c'est un messie fabriqué. Et il a été perçu par le grand public comme une véritable épopée au premier degré, et même quand on voit par exemple ce que voulait faire Jodorowsky, qui était une pure épopée d'un messie mais prise au premier degré, on se demande justement si se frotter à l'absolu, c'est pas justement dangereux, même par rapport à la perception de l'œuvre qui peut être prise pas une apologie, mais en tout cas, qui peut être prise réellement au premier degré, alors que, comme tu disais, son but c'était de démonter ces mécanismes-là et de montrer le danger de ces mécanismes-là.
Moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que, quelque part, dans Dune, entre guillemets, il y a tromperie sur la marche. Beaucoup de gens lisent Dune, parfois après avoir vu l'adaptation de Lynch ou bien après avoir joué aux jeux vidéo, qui vous mettent dans la peau du héros, en fait, quelque part. Et c'est vrai que c'est tentant. On retrouve, en particulier dans le premier roman, on retrouve cette histoire d'un jeune homme qui veut venger sa famille. Bon, c'est un schéma qui est classique. Un schéma qui est alléchant, un schéma qui plaît volontiers au lectorat, mais derrière, c'est une autre histoire qui nous est racontée. Parce qu'en fin de compte, ce qui est raconté dans Dune, c'est quoi? C'est, eh bien, comme Leto l'a bien dit, c'est l'échec du monolithisme, c'est l'échec du centralisme. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'échec du centralisme à l'échelle d'une civilisation et de l'humanité? Ça veut dire le risque de l'extinction, c'est-à-dire le fait que cette espèce que l'on appelle l'humanité peut devenir de moins en moins adaptée à son univers et finit par s'éteindre. C'est un risque qui est mentionné à plusieurs reprises dans le cycle. Dès le départ, Paul Atreides déteste ce qu'il est en train de faire à l'univers. La preuve, c'est que dès qu'il en a l'opportunité, il s'enfuit. Paul Atreides déteste ce qu'il est en train de faire, et pourtant il le fait. Il le fait parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, si quelqu'un ne le fait pas, ça sera pire après. Leto II lui-même, l'empereur Dieu, qui apparaît donc dans les tomes 3 et 4 de ce cycle, lui-même aussi, il n'aime pas ce qu'il fait. Pourtant, il le fait. Et il le fait pendant 35 siècles, si vous vous souvenez bien. Et il le fait même en sachant qu'à la fin, il va connaître un sort peu enviable. Pourtant, il le fait parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut que l'espèce humaine apprenne à s'adapter à son environnement. Et ça continue aussi, bien entendu, dans la dernière partie du cycle. Là encore, les Bene Gesserit font quelque chose de terrible à leur propre planète, puisqu'elles en détruisent toute la biosphère pour la substituer aux vers de sable et aux truites des sables. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça? Parce que d'une part, il faut sauver ces deux formes de vie qui ont été détruites sur leur planète d'origine, puisqu'à la fin du cycle, si vous en souvenez bien, la planète Arrakis a été détruite, stérilisée par un cataclysme nucléaire. Donc, pour d'une part, les Bene Gesserit font ça pour sauver les vers des sables, bien sûr, mais aussi parce que, comme ceci, elles s'apprennent à elles-mêmes une leçon. Le fait que, eh bien, parfois, il y a des choses qu'il faut sacrifier, même si elles sont précieuses, pour les besoins de l'adaptation. Et c'est clair, en particulier, dans la Maison des Mères, lorsque, à un moment, les Bene Gesserit, qui gouvernent cette planète du chapitre, reçoivent une délégation de la part des paysans de la planète qu'elles administrent. Une délégation qui vient se plaindre, qui leur dit « c'est pas possible, nous allons mourir ». Les Bene Gesserit n'en tiennent pas compte, parce que le but final est plus important que l'extinction de la culture de ces gens. Donc oui, il y a tromperie sur la marchandise, entre guillemets, et je pense que c'est intentionnel de la part de Frank Herbert. En commençant à nous raconter une histoire de Messie, une histoire de héros, qui fait dire à certains, c'est une opinion que je ne partage pas, que d'une, c'est une histoire de fantasy, quelque part, avec un héros charismatique, en nous racontant cette histoire, en fait, il nous met en position d'apprécier ce qu'il se passe lorsqu'il y a un personnage héroïque, un personnage charismatique, eh bien, qu'il se retrouve dans la situation de faire face à des problèmes insurmontables. Quelque part, Paul refuse d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi la tâche suivante dans le travail est confiée à l'empereur Dieu, son fils. Et là encore, il s'agit de la preuve que eh bien, l'être humain parfois n'accepte pas de s'adapter. Parfois, il préfère s'éteindre plutôt que d'essayer de tenter autre chose. C'est quelque chose, en effet, qui est très présent dans la pensée de Herbert. Si vous avez lu « Semence », par exemple, qui est une nouvelle qui a été republiée il y a quelque temps dans le numéro spécial de Bifrost consacré à Frank Herbert. Dans « Semence », il y a des idées très duniennes qui sont développées encore une fois. Cette idée selon laquelle, sur une planète hostile, les gens sont soumis à l'accès à une ressource, qui en l'occurrence, c'est des petites crevettes qui sont récoltées par la caste des pêcheurs, des crevettes qui permettent de survivre dans un univers par ailleurs, dans un monde par ailleurs hostile. Sur cette planète, donc, l'espèce humaine connaît des tas de problèmes. Par contre, il y a une espèce importée qui survit. Ce sont les faucons. Pour la petite histoire, les faucons, c'est l'emblème de la maison des Atreides. Donc peut-être un petit clin d'œil de la part de l'auteur à son autre œuvre. Les faucons, eux, survivent parce qu'ils apprennent à s'adapter. Et du coup, l'espèce humaine, dans Semence, doit apprendre à suivre l'exemple des faucons, plutôt que d'essayer d'utiliser des recettes déjà tentées et qui ne la mènent qu'au désastre.
Merci. Je pense que, pour ma part, si je peux me permettre, je ne pense pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise, parce qu'on nous présente effectivement les Atreides comme des gentils, avec des noms de héros comme Leto, puis leur dynastie, le nom de leur famille qui vient des Atreides, donc les héros maudits. Et puis, la première chose qu'on voit Leto, donc le père de Paul, faire, c'est parler à son ministre de la propagande. Ce qui est quand même en fin de deuxième. Après, en début de reconstruction et de Trente Glorieuses, propagande a quand même une tonalité assez négative.
Ah oui, mais il ne faut pas oublier que Dune, à la base, est vraiment une dystopie. C'est vraiment ce genre d'idéal-là. Il ne faut pas oublier que Frank Herbert, dans une de ses nombreuses vies avant d'écrire Dune, a été professeur à l'université à Washington et il tenait notamment un cours sur l'utopie et la dystopie. Et on voit bien que ce soit dans Dune, dans la barrière Santa Rosa, dans le cerveau vert, etc. etc. On voit bien que l'idée de vous-même, Frank Herbert, nous décrit des mondes qui ne sont pas forcément idylliques. Car pour lui, un monde idyllique, c'est la fin du questionnement, c'est la fin de l'humanité, puisque l'humanité doit toujours réagir, s'adapter et ne jamais prendre pour acquis ce qui lui est donné. Et cette notion de ministre de la propagande est d'autant plus importante et intéressante à déduire que, pareil, toujours, on est toujours dans le même mouvement. C'est cette propagande, que ce soit au départ avec la mise à propagande de la maison Atreides, ou même dans le début du Messie, on a la police religieuse et toute cette propagande autour d'une mythologie de la maison Atreides est vraiment signe de que les choses vont mal, que on est dans un empire décadent, que le règne de Leto II, de Paul, le règne de Paul dans le Messie et la régence d'Aralia est une catastrophe. Et pour revenir aussi sur cette mauvaise adaptation des Fremen, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, c'est au départ, les Fremen, il faut bien se rendre compte qu'ils passent pour les gentils. Ils passent pour les gentils parce qu'ils veulent terraformer et rendre vivable leur monde. Très bien, très bonne initiative. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voudraient qu'on fasse attention à son environnement, qu'on revienne à quelque chose de plus sympathique, de plus vivable. Et il y en a qui disent peut-être, mais ne vous y trompez pas. Vous allez être obligé de changer votre mythologie sociale, comme on disait tout à l'heure. Les frères ne sont pas adaptés parce que toutes leurs croyances dépendent du désert, de la rareté, de la même façon que ce soit leur économie, que ce soit leur religion. On voit très bien quand Paul part au désert qu'il y a tout un débat pour savoir si finalement un aveugle doit encore subir la peine d'être exilé au désert, alors que maintenant, même si c'est Paul, même si c'est le prophète, certains vieux anciens diront non, il faut quand même l'envoyer au désert. Paul partira lui-même au désert. Mais il n'y a plus besoin de ça. Et cette inclination des Fremen à rester dans leur vieille culture basée sur le désert, l'arrivée de l'eau va complètement les perturber. Et on va passer d'une économie, comme tu disais tout à l'heure, il parle de transition pour Mathieu, sur sa notion d'épices et de rareté dans le monde de Dune. L'eau qui était si rare et qui était à la base, cette économie de rareté de l'eau qui était à la base de la civilisation Fremen, quand on arrive au début du Messie, quand on voit ces Fremen parler de. Qui ont traversé et vu les océans, pour eux, avant, un hors-monde qui arrivait est gorgé d'eau, maintenant qu'ils en ont vu et qu'ils en ont à profusion sur Arrakis, ils sont incapables de remettre en cause leurs principes économiques, ils sont incapables de les adapter, et c'est ce qui va aussi conduire d'une certaine façon à leur perte, c'est qu'ils ne sont, ils se sont placés en autosuffisance et dans un monde fini, aux ressources finies, c'est-à-dire le désert, le manque d'eau, ils se sont placés dans cet univers-là et ils sont incapables de faire face à une profusion de leur matière, de cette matière première qui est l'eau. Ils sont incapables de remettre en cause leurs différentes lois, leurs différentes règles, et c'est ce qui va les perdre, parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont plus adaptés en économie de rareté, ils ne sont plus adaptés à une économie de profusion.
Le problème qui est soulevé par Frank Herbert aussi, c'est la brutalité du changement. Le plan qui était prévu par les Fremen, c'était un plan, si l'on s'en réfère aux appendices de Dune, qui devait durer quelques 300 ans ou quelque chose comme ça, pour transformer un monde désertique en un monde jardin. Il était prévu aussi dans ce plan qu'il y aurait des régions entières d'Arrakis qui auraient été conservées telles quelles, afin de laisser de la place pour les vers des sables et donc l'écologie indigène. Et ce qui se passe, c'est l'irruption, bien entendu, de Paul, c'est-à-dire du héros, comme il est mentionné dans les appendices de Dune. Et Paul, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup d'accélérateur au plan des Fremen. Pourquoi est-ce qu'il donne ce coup d'accélérateur? Mais pour des raisons politiques. Quelque part, Paul fait un marché avec les Fremen. Il leur dit, d'accord, vous voulez que votre monde se transforme en monde jardin, je mettrai les ressources d'un empire tout entier à cette tâche, mais pour ça, il va falloir me le conquérir, cet empire. Et c'est ce que font les Fremen. Quelque part, les Fremen signent un pacte faustien, parce qu'ils sont précipités. Ils ont envie d'avoir tout de suite leur monde jardin. Et ils l'obtiennent au prix de leur identité.
Du coup, est-ce que on peut... Tu veux parler? Est-ce qu'on peut parler de l'épice, donc effectivement, qui est souvent assimilée au pétrole, parce qu'il y a des conglomérats qui l'utilisent, parce qu'elle est utilisée pour le déplacement, parce qu'elle permet un mode de vie différent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa rareté et justement sur sa distribution?
Parce qu'elle n'appartient pas aux indigènes, c'est-à-dire à ceux qui vivent sur place, ce qui était aussi le cas du pétrole, où les tribus n'avaient rien. Donc oui, c'est clair que la création de Bloc-Lab, c'est quoi? C'est 70, non? Enfin,
c'est dans ces eaux-là, en
effet. C'est dans ces eaux-là. En fait, ça a été réellement visionnaire de tout à coup des indigènes qui décident de profiter de leurs propres ressources, enfin, de leurs propres ressources. Mais en fait, l'épice, c'est un mélange de pétrole, de drogue, enfin de drogue, hein, puisque c'est utilisé pour les trans. C'est un mélange de tas de substances sacrées, finalement.
C'est une panacée, en fait.
Voilà, c'est une panacée.
Bon, alors, ce qui est certain, c'est que Frank Herbert déclarait dans certaines interviews, il a eu l'occasion de déclarer que la CHOM, c'est-à-dire le conglomérat qui est chargé un peu de la distribution de l'épice, entre autres choses, dans l'univers, il l'assimile à l'OPEP, en fait. Donc, il est clair qu'il retranscrit d'une façon transparente le rôle des cartels dans son univers futur. Pour l'épice, alors après, pour cet aspect un peu plus économique, mon voisin de gauche voudra en parler, j'imagine, mais pour ce qui est en effet de l'épice en tant que substance chimique, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a imaginé une chimie complexe derrière ça. Il y a d'autres personnes que lui qui se sont amusées à le faire dans la Dune Encyclopédia, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cet aspect de panacée contribue un peu au caractère magique, au caractère peut-être plus de fantasy que peut avoir Dune au début. Puisque, bon, quelque part, cette épice, elle sert à tout. Hein. Alors, c'est pas tout à fait le carburant, mais ça permet de faire des voyages dans l'espace. Ça permet de voir les vies antérieures pour les révérendes mères du Bene Gesserit. Ça permet pour Paul et puis pour les navigateurs de la guilde de voir d'une certaine façon les avenirs possibles. Et puis surtout, ça prolonge la vie et ça ça permet de guérir d'un certain nombre de maladies. Songez que les personnages qui prennent de l'épice parviennent à vivre très vieux en bonne santé. Certains personnages dépassent volontiers les 200 voire 300 ans. Bon, cette épice, c'est une panacée, bien sûr, mais c'est surtout une drogue. C'est-à-dire qu'une fois que les personnages ont commencé à en prendre, ils ne peuvent plus en passer. C'est dit d'une façon très nette, et dès le départ, dès le moment où Paul, qui est en fuite face aux assassins, devant les assassins qui veulent exterminer sa famille, Paul se rend compte qu'il est désormais coincé sur Dune. Il ne peut plus se passer de l'épice, et d'une façon ou d'une autre, son destin est lié à la planète sur laquelle il vit. Et il lui dit d'une façon très nette, nous ne pouvons nous enfuir. Il l'annonce à sa mère en ces termes comme ça. Donc, une panacée, mais un cadeau empoisonné quelque part. Et sans surprise, de cette panacée, on peut tirer des poisons, en particulier la fameuse eau de vie qui porte un peu mal son nom, puisque seules certaines personnes peuvent la boire sans en mourir. Donc d'un point de vue scientifique, l'épice, c'est quelque chose d'intéressant, qui possède des propriétés très particulières, uniques, et qui s'intègre très bien dans l'univers tel qu'il a été pensé par Frank Herbert, et qui s'intègre en particulier très bien aux arrière-pensées économiques, cette fois-ci, dont je pense que Guillaume veut parler dès maintenant.
Oui, comme je disais tout à l'heure, Herbert nous propose une économie basée sur la rareté. On peut oublier donc Dune, l'écriture de Dune, on a début des années 60, donc l'OPEP n'est pas encore créé, mais on a encore tout ce qu'on appelle les cartels. Donc c'est avant les grandes nationalisations pétrolières par les pays producteurs. Donc ce sont les cartels en question. En gros, c'est les anciennes compagnies, 5 plus grosses majors américaines, donc Exxon, Shell, American Oil, etc., qui interviennent dans des pays producteurs comme l'Arabie Saoudite, tous les pays du Golfe qu'on connaît aujourd'hui, pour extraire le pétrole et le vendre sur les marchés internationaux. Cette notion de cartel est à rapprocher évidemment du CHOM, mais surtout de la passation entre la famille Atreides et la famille Harkonnen, qui sont en fait des hors-monde pour les Fremen, et qui viennent sur Arrakis pour extraire l'épice. Donc on en a parlé, l'épice, ça prolonge la vie, ça permet les voyages supraluminiques, c'est une drogue, bref, c'est la base de l'économie de l'Imperium, c'est l'épice. Or, l'épice, on ne la trouve que sur cette planète, à partir de là, l'aventure commence, que ce soit sur sur les jeux vidéo, sur les films, sur tout ce que vous voulez, vous entendrez toujours ce pitch pour Dune, c'est la planète de l'épice, la substance la plus précieuse de l'univers. Donc on commence dès le début à présenter Arrakis, Dune, comme une économie basée sur la rareté. C'est ce que je disais tout à l'heure, en remémorant Hotling. Donc Hotling, c'est un économiste anglais qui publie en 1923 une thèse justement pour expliquer comment fonctionne ce système des cartels, des cinq majors pétrolières. Et c'est également le système économique qu'on met en place pour l'épice dans le monde. Parce qu'à la limite, l'épice, c'est comme le pétrole dans ces années-là. Il suffit de se baisser, de l'attraper et de le revendre. Ça ne coûte pas une fortune. Mais par contre, quand vous le revendez, vu toutes les utilisations qui en découlent, vous voulez vendre une fortune. Donc sur Dune, le principe était identique. C'est-à-dire que les Atreides arrivent, ils utilisent leur moissonneuse, ils récoltent l'épice à tour de bras, avec une main-d'œuvre très bon marché, on ne va pas dire esclavagée et sous-esclavage lorsque les Harkonnen sont au pouvoir. Et Hotling, dans les années 20, va mettre en place en évidence ce qu'on appelle une rente de monopole, également appelée une rente rareté. Cette rente de rareté, elle précise que la mise à disposition d'une ressource finie dans un espace fini à des consommateurs, donc quand vous êtes le seul à posséder cette substance, vous donne le droit, et d'ailleurs je vous le conseille, d'intégrer dans votre prix de vente, en plus du coût de revient, ce qu'il appelle une rente de rareté. C'est-à-dire que vous sacrifiez votre propre consommation future au prix pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous utilisez aujourd'hui comme pétrole, ce que vous vendez, ce que vous produisez, c'est autant de pétrole en moins dans votre propre production, dans vos propres stocks. Donc, vous allez faire payer la personne, en face. Le principe pour l'épice, c'est exactement le même. Quand on voit que le gramme coûte une fortune, on parle de centaines de milliers de solaris le gramme. Alors là, je ne sais plus si je suis sur le jeu vidéo ou si c'est également mentionné dans le livre.
C'est dans les appendices.
Mais voilà. Donc on est vraiment dans cette expression d'une théorie économique qui est en vogue et qui est à la base d'une certaine économie sur les ressources, notamment naturelles, ressources minières, ressources pétrolifères. On est vraiment dans cette présentation économique-là. Et sur Dune, en elle-même, l'épice ne vaut rien. Les Fremen l'utilisent dans leur vie tous les jours, mangent des gâteaux d'épices, ils la côtoient tous les jours. Eux, leur problème, ou leur épice, ça va être l'eau. Et vous voyez bien, et c'est toujours la même chose, vous voyez bien que les marchands d'eau sur Arrakis, au tout début, comme ils sont présentés dans Dune, c'est pareil. Ils vont récupérer tout ce qu'ils peuvent d'humidité, de la transpiration. On voit aussi les cérémoniales au tout début, lorsque Jessica met fin à cette tradition qui veut qu'on jette un petit peu d'eau et que les gens derrière se ruent pour la récupérer. On est vraiment dans cet environnement de rareté qui va faire monter les prix d'une façon complètement exponentielle et maintenir une structure économique qui est complètement déconnecté de la valeur d'usage des choses. La valeur marchande, la valeur économique de l'épice sur Arrakis ou dans l'Imperium est complètement déconnectée de sa valeur d'usage sur Arrakis ou de son utilisation par les populations autochtones, par la population fremen. Cette évolution, cette présentation d'une économie de rareté, on va la retrouver également dans l'Empereur Dieu, sous une autre forme. Dans l'Empereur Dieu, c'est l'Empereur Dieu, Leto II, qui a le monopole de l'épice. Et là, on va basculer dans l'autre système. C'est-à-dire que Hotling présente la rente de rareté dans un système capitaliste, tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'Empereur Dieu, lui, va dire, ben non, l'épice, je la garde pour moi, je la distribue au compte-goutte. Donc, pareil, la valeur va effectivement devenir très sensible, mais le principe de l'Empereur Dieu n'est pas de dire, n'est pas de se faire l'argent, c'est pas du tout son but. Lui, son but, c'est de libérer les énergies créatrices. Parce que quelles sont les options disponibles dans un marché comme ça de rareté? Vous avez deux options. Soit vous payez le prix qu'on vous demande, vous ne réfléchissez pas. Soit vous allez essayer de trouver des solutions alternatives. Dans l'Empereur Dieu, c'est typiquement le U divisé par les taux 2. C'est j'ai la main mise sur un rapis, j'ai le monopole de l'épice. Débrouillez-vous. Essayez de trouver autre chose si vous voulez vous libérer. Donc d'un côté, vous allez avoir le Dilax qui va essayer de définir une drogue, qui va essayer de produire une épice de synthèse. De l'autre côté, vous allez avoir la guilde spatiale et X qui vont essayer de développer des technologies alternatives pour permettre le voyage, les voyages supraluminiques. Et toutes ces révolutions vont permettre de se libérer de l'empereur Dieu, ou en tout cas de se préparer à l'après-Dieu. Et Frankenberg ne dit pas aux choses quand il parle d'environnement, etc. Il faut savoir que dans son Oregon, là où il vivait, il avait mis en place chez lui, il essayait d'être autosuffisant et de réduire sa dépendance vis-à-vis de structures, que ce soit les grandes compagnies d'énergie. Il avait produisait ses propres légumes, ses propres fruits. Et il avait sa propre éolienne. Il était d'ailleurs en train de mettre en place et d'essayer de breveter un système d'éolienne. Donc l'idée de Frank Herbert, c'est de se dire, voilà, plutôt que de payer et de rester dans un statu quo qui va vous emmener à la stagnation et qui vous amènera à rien de bon, révolutionnez, cherchez de votre côté, par petites touches, petit à petit. N'attendez pas qu'un absolu, qu'une décision d'en haut vienne vous libérer. N'attendez pas la prochaine révolution technologique ou quoi que ce soit. Provoquez-la. L'autosuffisance de l'homme dans son environnement n'a pas pour but, pour Frank Herbert, d'un retour à la nature joyeux et il est bien loin. Il est à l'opposé du naturaliste que peut être Rousseau. Pour lui, l'homme bon n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas d'homme naturellement bon qui serait corrompu par la société. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très bien au tout début, c'est une autre partie de l'écologie, c'est l'écologie humaine avec le Gobjavar. Au tout début du cycle, donc première scène, la révérende mère Gaius et Moyen va tester Paul Atreides au Gobjavar. Le Gobjavar, c'est quoi? C'est un test qui doit permettre de déterminer si un être humain est vraiment un être humain ou si c'est un animal. L'idée pour Moyen, c'est de combattre les instincts animaux de l'homme. Bon. L'idée pour Frank Herbert, c'est ça. C'est l'homme doit se libérer en puisant dans son propre potentiel. Et c'est ce qui va se passer sur la fin. Et c'est le principe que Frank Herbert appliquait lui-même tout au long de sa vie. C'est-à-dire, je me réapproprie mon environnement immédiat pour pouvoir me rendre plus indépendant d'un pouvoir qui serait absolu ou d'un pouvoir centralisé. Et on en revient toujours au même. Pour Herbert, l'un écosystème ou l'écologie, c'est l'interdépendance d'êtres humains. C'est pas une relation de servilité entre des êtres humains qui auraient un pouvoir et d'autres qui n'auraient rien. Chacun doit avoir sa propre parcelle de pouvoir et doit être autonome dans son quotidien pour pouvoir interagir, et c'est vraiment cette notion d'interaction qui est très intéressante, pouvoir interagir avec son environnement en tant que nature, la nature, l'environnement, et l'environnement humain et social.
Merci, tu fais une super transition parce qu'on va interagir avec notre public. Juste avant de vous demander si vous avez des questions, on vous rappelle qu'on a d'autres tables rondes. Donc à 15h30, dans cette salle, on a la Volt qui fête ses 10 ans cette année, qui va présenter sa maison. Et donc vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voudrez. Et en salle 1, donc, qui vous sera montrée à l'accueil, on aura une conférence sur la terraformation des planètes et la bioformation de l'humain. Donc c'est à 15h30. Donc je vais me lever pour prendre vos questions, si vous en avez.
Pas de questions?
Ah, est-ce qu'il faut se lancer? Je vais m'autoriser une remarque, je vais faire une question. Ouais, je vais parler de panémique. Une remarque et une question. Peut-être une remarque sur les Fremen. Les Fremen, c'est une société. Une société, ça vit, ça meurt, ça naît, etc. Et je pense que ça aussi, regardez ce que c'est, les Fremen n'ont pas de projet au début. C'est Kain. Contraintes qu'on appelle l'écologie. Lorsqu'on regarde Dune, vous en avez parlé là tout au long de la table ronde, c'est bien ça. alors c'est peut-être plus parlant, le bureau des sabotages, les deux livres, les deux romans du bureau des sabotages, que ce soit dans l'étoile et le fouet, que ce soit dans deux sa vie, l'étoile et le fouet, qui est la ressource rare, c'est effectivement la possibilité de passer d'une planète à une autre, c'est là qu'effectivement il y a une économie de rareté et que se crée des stress. On a strictement la même chose dans deux sa vie. J'ai le sentiment que Franck Herbert a essayé de répondre à cette question qui est le moteur de l'évolution, et pas seulement de l'évolution humaine, parce que c'est vrai que d'une, c'est ainsi qu'on a des humains, transformés ou pas transformés, mais des humains. Quand on prend le programme conscience, on a d'autres intelligences, que d'autres consciences, devrais-je dire, que la conscience humaine, c'est encore beaucoup plus vrai dans deux sa vie. Enfin, pardon, excusez-moi, dans le bureau des sabotages, où là, très clairement, d'une, mais sous la table, tout un tas de ce qu'on pourrait ce qu'on qualifierait actuellement classiquement d'aliens, qui interagissent. Évoluer. Et qu'est-ce qui génère cette évolution? J'ai le sentiment que Franck Herbert a essayé de trouver une réponse qui est le stress.
Alors, je vais essayer de répondre que, pour moi, en tant que biologiste, je pense en effet que le stress est l'un des... Enfin, le stress, la contrainte, pour être plus précis, est une des conditions d'évolution. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce que l'évolution... On en a beaucoup parlé d'une façon théorique et bon, je pense que tout le monde dans cette salle a des notions, on va dire, fondamentales là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, on parvient à observer l'évolution en laboratoire. Alors, la difficulté pour observer l'évolution, c'est bien entendu le facteur temps. Pour observer l'évolution d'une espèce telle que la nôtre, il faudrait pouvoir l'observer sur des générations et des générations. Or, bien entendu, plus le temps de génération est long, entre 20 et 25 ans chez l'être humain, plus, bien entendu, il est difficile d'observer les effets de l'évolution. Alors néanmoins, la nature étant bien faite, si j'ose dire, elle met à disposition des biologistes des êtres vivants qui ont un temps de génération très court. Ça s'appelle des bactéries. Et, par exemple, le temps de génération chez une bactérie telle que l'Escherichia coli, celle qui vit dans vos intestins à l'heure actuelle, en grande partie, c'est de l'ordre d'une demi-heure. Donc ça veut dire que en quelques heures, vous avez déjà eu plusieurs générations qui se sont produites. Donc il y a des programmes d'études de l'évolution, de l'étude expérimentale de l'évolution, qui se déroulent sur quelques années, et vous parvenez à avoir un nombre élevé de générations. Et vous parvenez à démontrer qu'en soumettant ces bactéries à des contraintes, donc par exemple la présence d'un antibiotique, vous avez... vous allez avoir tendance à sélectionner des individus qui seront résistants à ces contraintes, résistants à cet antibiotique. Et les mots eux-mêmes qui sont employés par les biologistes sont très intéressants et très porteurs de sens, puisqu'on parle bel et bien de pression de sélection. Donc pression comme contrainte, pression comme stress. Donc oui, Franck Herbert a très bien compris... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il l'a prophétisé, mais il a très bien compris que l'un des facteurs de l'évolution des espèces, bien entendu, ce sera le stress. La présence d'un prédateur, la présence d'un danger, quelle que soit la forme du danger. Parce que, eh bien, les lois de l'évolution proviennent en réalité du langage de la génétique, et le langage de la génétique est le même entre les bactéries et puis l'être humain. Donc si c'est vrai pour les bactéries, en l'occurrence, c'est vrai pour les êtres humains aussi. Et quelque part, ce qui est intéressant aussi, pour faire le lien avec l'œuvre, le programme de sélection des Bene Gesserit, c'est 100 générations, c'est-à-dire déjà un temps qui est long, en temps réel, on va dire. Donc à partir de là, oui, la notion d'évolution par le stress, pour moi, elle est tout à fait vraie. C'est quelque chose qui est très clair dans l'œuvre de Franck Herbert. Il y a toujours une contrainte qui explique pourquoi les gens doivent changer leur façon de faire dans toutes ces œuvres. Ça peut être la rareté de l'eau ou la rareté de l'épice dans Dune. Ça peut être dans le cycle du bureau des sabotages, dans Ossédie en particulier. Ça peut être un environnement toxique sur la planète d'Ossédie. Il y a toujours un stress, une contrainte, une pression de sélection qui explique pourquoi est-ce que l'équilibre final n'est pas le même que l'équilibre initial. Et en ce sens, c'est un auteur écologique, on va dire.
Et oui, pour rebondir sur ce que tu dis aussi, c'est qu'effectivement... Que ce soit au début de Dune, on a parlé des Fremen qui s'adaptent à un monde aride, on aurait pu parler également des Sardaukar qui s'adaptent à Salus Secundus. On a vraiment une transition plutôt du cycle entre la pression de l'environnement, le stress tel qu'on le connaît. Et au fur et à mesure, de toute façon, on sait que les humains, pour Herbert, c'est quasiment inné, sont capables de s'adapter à n'importe quel environnement physique, en tout cas dans Dune. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vivre sur des mondes tels que un désert de sable, ils arrivent à survivre, tant bien que mal, dans une planète vitrifiée comme la planète Saguzin. Mais au fur et à mesure, Herbert va complexifier cette contrainte. Ça va se terminer par la plus grosse contrainte, ça va être les taux 2, puis la dispersion. C'est l'homme lui-même qui devient sa propre contrainte et qui, les taux 2, qui se veut un prédateur pour l'humanité, pour pouvoir la forcer à évoluer. Puisque jusqu'à l'état 2, si on va dire sur la première partie du cycle, l'humain, on va bien, il est stagnant. De toute façon, l'idée d'Herbert, c'est si vous continuez sur ce principe-là, vous allez mourir. Le Centidor, ce n'est rien mieux que relancer une évolution, relancer un stress évolutionniste pour que l'homme puisse se dépasser et puisse continuer à progresser.
Il y a d'autres questions, mais rapides, parce qu'il faut qu'on libère ça. Alors, pour revenir à la question de l'évolution des Fremen, vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait que les Fremen ne sont pas adaptés à une société de profusion et qu'ils ont disparu en conséquence de ça. C'est une question de l'autre, je vais avoir pas lu les livres où cette question est traitée. Du coup, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'ils ont disparu dans une extinction naturelle ou est-ce que simplement leur société s'est passée, ils sont passés à un autre mode de vie? Auquel cas, c'est pas quelque chose de négatif, finalement.
Ils sont passés à un autre mode de vie. C'est une transformation à laquelle on n'assiste pas dans les livres, hein, puisque entre le moment où les Fremen sont encore des Fremen tels qu'on les connaît dans Dune, et puis le moment où ils disparaissent, il y a plusieurs siècles qui se produisent. Et en fait, dans l'intervalle de 3500 ans qui sépare les enfants de Dune, c'est-à-dire le dernier volet où les Fremen apparaissent en tant que tels, et puis l'empereur de Dune, c'est-à-dire le moment où les Fremen sont devenus des Fremen de musée, c'est-à-dire plus des gens qui singent les coutumes de leurs ancêtres, avec
ils vont mal finir d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a une scène où ils sont égorgés lors d'une...
Ça c'est dans les enfants de Dune, ça.
Ça c'est dans les enfants, ça finit pas très bien quand même.
Mais ça finit pas très bien quand même, puisque leurs enfants sont des mendiants, ils reçoivent des touristes, ils essaient de sortir d'argent. Et bon, quelque part c'est pire que s'ils étaient exterminés, puisque...
Ils sont dénaturés.
Voilà, ils sont dénaturés, ils sont même plus l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont des coutumes dont ils ne connaissent plus la signification. Et ce sont des figurants. Ce sont des figurants dans un village Potemkin, quelque part. Pardon ? Je n'ai pas compris ce que
vous avez dit. Une réserve indienne.
Tout à fait, une réserve indienne. Encore que, même dans les réserves indiennes, je dois dire que... Ils ont encore la connaissance de leur propre culture. Là, ce n'est plus le cas. Ils sont acculturés au sens propre du terme. Et à ce titre, d'ailleurs, dans l'un des épigraphes de l'empereur dieu Dune, on voit Leto II qui raconte lui-même une des rencontres avec l'un des lointains descendants de Stilgar, le chef Fremen qui devient l'un des premiers alliés de Paul. Il explique, Leto II explique ceci, je lui ai donné rendez-vous dans un endroit, je ne me suis pas présenté mais je l'ai observé. Stilgar aurait su qu'il était observé. Cet homme-là s'est contenté d'attendre, puis voyant que personne ne venait, a fini par partir. Ça, on sent bien à cette scène que, eh bien, il y a quelque chose qui a été perdu. Dans le regard que l'être porte sur son environnement, pour Stilgar, l'environnement, c'est quelque chose qui peut être hostile, et donc il est important de savoir si on n'est pas observé par quelque chose de dangereux, s'il n'y a pas un danger qui menace. Pour son lointain descendant, l'environnement n'est pas hostile, il le sait. Donc pourquoi se préoccuper de savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce que la personne qui lui a donné rendez-vous n'est pas venue? Et c'est à ça qu'on perçoit que les Fremen ne sont plus les Fremen, mais des Fremen de musée.
Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour laisser la place à nos amis de la Volx. Merci d'être venus et bon festival. Et merci à nos invités. Ah oui. Une dernière chose, donc, les modérateurs du Forum Moudine, qui sont des cartes, le monde va former un super petit mois de 10 000.